France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, les Grecs ont célébré un héros surpuissant, très fort. Un tueur de monstres en série, inlassable, un vainqueur perpétuel, qui a passé son temps à débarrasser le monde d'une foule de monstres, de brigands, de pas gentils qui l'infestaient. Ce héros grandiose était, et est encore, Héraclès, Hercule chez les Romains, bien connu pour ses muscles, son éternelle massue et sa peau de lion. J'avoue que pendant longtemps, je n'ai pas eu beaucoup de sympathie pour cette force de la nature, cette brute, très bodybuildée, musculeuse, qui ne prenait pas le temps de négocier avant de taper.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Mon roi, voilà l'homme qui a sauvé ta fille.
On m'a dit que tu avais tué le lion qui l'a menacé avec la seule force de tes mains.
C'est la vérité, père. Ma nourrice et moi, nous l'avons vu de nos yeux. Nous pouvons te le jurer.
Comment un être humain peut-il réussir ce miracle? Je n'ai jamais entendu parler d'un exploit semblable.
Je n'avais pas d'armes et la jeune fille était en danger. C'est tout.
On présente souvent Héraclès comme un grand héros civilisateur, un pacificateur, puisqu'il nous a libérés de tant de créatures horribles et cruelles. Mais il avait la fâcheuse tendance de ressembler aux bêtes qu'il aimait éliminer. Il n'était pas tellement plus délicat que ses victimes. Et puis, on pouvait se croire parfaitement autorisé à ne pas trouver Héraclès sympathique. Il n'avait aucun savoir-vivre. Il ne se contentait pas d'assommer des bêtes sauvages. Il partait à la conquête des femmes sans trop leur demander leur avis. Le philosophe Aristote, plus que méticuleux dans ses enquêtes scientifiques, dit qu'Héraclès a eu, selon les traditions légendaires, 72 enfants, dont une seule fille. Si on est un mâle puissant, il faut bien se reproduire. Le trait le plus attachant peut-être dans ses débordements est sa gloutonnerie, qui était insatiable. Héraclès dévoré.
Oh, oh Hercule, oh, un fils de Dieu païen. Silence, vous tous, silence, chenille. Écoutez-vous tous. Regardez bien cet homme et que son nom reste dans vos mémoires, il en vaut la peine. C'est vous qui c'est. C'est Ursus, le grand Ursus, le héros d'innombrables batailles, l'homme le plus fort du monde, celui qui a été surnommé Hercule par ses compagnons d'armes. Il m'a sauvé la vie en Macédoine. Et aujourd'hui, par tous les dieux, il est là, chez moi.
Dans une auberge, il pouvait engloutir tout le stock de nourriture, partir sans payer en rugissant et en emportant le mobilier, nous dit le poète comique Aristophane. Dans une de ses comédies, Aristophane imagine deux tenancières d'auberge qui croient reconnaître dans un client Héraclès, le grand dévoreur.
Moulagate, viens ici. Elle est là, la canaille, qui est venue autrefois à l'auberge et nous a dévoré 16 pains de froment. Et en sus, des viandes bouillies, une vingtaine, d'une demi au bol chacune. Et là, ils mangeaient en masse. Je n'ai même pas parlé de ces masses de viande séchée. Ni, nom de Zeus, du fromage encore jeune, ma pauvre, que cet homme a dévoré à même les corbeilles. Et puis quand je réclamais mon argent, il m'a regardé dru et s'est mis à rugir. Et il a tiré l'épée avec l'air d'un fou, et terrifiés toutes deux, nous sautons sans attendre dans la soupente, et lui s'en va d'un grand bond, non sans voler les tapis. Oh, gorge dégueulasse, qu'avec plaisir j'y ferais à coups de pierre s'écrouler les molaires qui t'ont servi à dévorer mon stock.
Mais si on regarde son histoire, sa naissance, ses aventures, son cas devient vraiment intéressant. Héraclès est certainement une brute, mais il n'est pas qu'une brute. Ce qui frappe d'abord, si on peut dire, c'est qu'il s'est toujours ou presque toujours fait doubler. Il s'est très souvent fait avoir. Il a toujours été confronté à plus puissant que lui. Il n'a jamais été un homme libre. Héraclès est connu surtout pour ses 12 travaux, 12 exploits que nous raconterons. Ses exploits ont fait sa gloire. Mais s'il a dû les accomplir, l'un tout de suite après l'autre, en s'épuisant, c'est qu'il était aux ordres d'un autre homme, un cousin, qui ne le valait pas, qui était moins costaud que lui, mais qui avait autorité sur lui. Et pendant un an, Héraclès a été l'esclave d'une femme, la belle princesse asiatique Omphale. Pour elle, Pour accomplir des travaux féminins, il s'est habillé en femme. Ça ne l'empêchait pas d'aller de temps en temps écrabouiller un méchant qui encombrait le royaume de sa maîtresse. Pendant toute sa vie, Héraclès a été poursuivi par la haine féroce de la déesse Héra, l'épouse plus que légitime de Zeus. Héra ne supportait pas que son mari ait pu faire ce fils adultérin dans son dos. Elle a infligé à Héraclès mille et mille épreuves et douleurs. Elle l'a même rendu fou, délirant, et l'a poussé à tuer femmes et enfants. En fait, Héraclès n'a jamais été maître de son existence, alors qu'il était l'être humain le plus fort du monde, et que son père était Zeus, le plus fort des dieux, un père qui en plus le chérissait, cherchait à le protéger. Mais cela n'a pas suffi à faire d'Héraclès un homme libre de vivre comme il le voulait. Il ne décidait de rien. Et pourtant, il était célébré, vénéré partout. Et lui, le mortel qui a tant souffert, il a fini par devenir une divinité et à vivre auprès de son père Zeus. C'est totalement exceptionnel. Normalement, les fils de Zeus et d'une femme mortelle n'échappent pas à la mort définitive, comme tous les autres humains. Au mieux, ils peuvent avoir des funérailles fantastiques. Il n'y en a que deux qui soient devenus des dieux immortels, Dionysos et Héraclès. Mais ça n'a pas été facile, ni pour l'un, ni pour l'autre. Héraclès est donc une énigme. Il devient excitant. On peut se demander pourquoi les Grecs ont tenu à imaginer et à raconter tant de fois ce héros paradoxal, si fort et si soumis. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Ça commence par sa naissance, qui est déjà quelque chose de vraiment bizarre. Parlons d'abord de la mère d'Héraclès. Dans la ville d'Argos, en Grèce, il y avait une jeune femme magnifique, belle, très intelligente et très fidèle. Elle s'appelait Alcmène. Un nom qui dit la puissance, il dérive du mot alké, qui signifie la force physique, la capacité de résister aux assauts, aux tempêtes. Le poète Hésiode, ou plutôt un poème qui lui a été attribué, le fameux « Catalogue des femmes », poème qu'on date du 7e siècle avant notre ère, fait de cette femme Alcmène un portrait plus qu'élogieux. Elle avait toutes les qualités, physiques, intellectuelles, morales et amoureuses, une perfection.
Alcmène surpassait la tribu des femmes vraiment femmes, par la beauté, par la taille. En esprit, personne ne pouvait rivaliser avec elle. Aucune femme née d'une mortelle unie à un mortel. De son front et de ses paupières bleutées d'azur émanait un souffle qui semblait venir d'Aphrodite, toute d'or. Mais ce qui dans son cœur avait le plus de prix était l'homme de son lit. Comme jamais femme au sexe féminin n'a apprécié le sien.
Alcmène était de très bonne famille. Elle descendait du héros fabuleux Persée, ce courageux fils de Zeus qui avait tué la Gorgone et qui avait délivré la belle Andromède qu'il épousa. Persée lui-même était un descendant de Io, vous vous souvenez ? Cette princesse grecque qui, poursuivie par le désir de Zeus, avait dû fuir sa ville natale, Argos, pour errer jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à ce qu'elle arrive en Égypte et engendre le fils que lui avait fait Zeus. De ce fils égyptien d'Io et de Zeus, sont issus plusieurs générations après Persée, puis Alcmène. Cet Alcmène était marié à un bel homme, le magnifique Amphitryon, un chef, un guerrier, qui était lui aussi un descendant de Persée et donc un lointain descendant de Io, la princesse d'Argos réfugiée en Égypte. Alcmène et son mari Amphitryon étaient cousins. Ils vivaient tous les deux en exil dans la ville de Thèbes. Amphitryon avait dû s'y réfugier avec Alcmène après une histoire compliquée de vol de bétail. Une guerre avait eu lieu à cause de ces vaches volées. Les frères d'Alcmène avaient été tués. Le brave Amphitryon avait fini par récupérer les vaches, mais par accident, il tua son beau-père, le père d'Alcmène, alors qu'il ramenait ses vaches. On dit parfois qu'Amphitryon et son beau-père s'étaient querellés, toujours à cause de ces vaches. Est-il que le père d'Alcmène était mort à cause de son gendre, Amphitryon. Amphitryon a dû s'enfuir pour être purifié de la mort de son beau-père dans une autre ville. Il trouva cette purification dans la ville de Thèbes et il put donc y vivre. Mais tout n'alla pas comme prévu. Certes, Amphitryon était purifié, c'est-à-dire absous de la mort de son beau-père. Mais il n'était toujours pas tranquille. Les frères d'Alcmène étaient morts dans cette histoire de troupeaux volés, et Alcmène criait vengeance. Bien que très amoureuse, elle refusait de coucher avec son mari Amphitryon tant que ses frères ne seraient pas vengés. Amphitryon, lui aussi très amoureux, décide donc de prendre les armes et d'aller faire la guerre aux assassins des frères d'Alcmène. C'était la condition pour qu'il puisse enfin être l'amant de sa propre femme. Le poète Hésiode raconte l'histoire.
Amphitryon a tué le noble père de sa femme. Violent, il l'acheva dans une colère pour des vaches. Abandonnant sa terre natale, Amphitryon partit en suppliant pour Thèbes, chez les Cadméens, porteurs de boucliers. Là, il habita avec la vertueuse femme de son lit, mais sans la sexualité porteuse de désir. Il n'avait pas le droit de monter dans le lit de sa femme, aux belles chevilles, la fille d'Électrion. Pas avant qu'il ait vengé la mort des frères de son épouse. Ces hommes grands de cœur.
Amphitryon rassemble une armée, quitte la ville de Thèbes et s'en va vite guerroyer pour rentrer le plus tôt possible chez lui et consommer enfin son mariage. Mais ça va mal tourner.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Sing a happy song. A spring does not last long. A flower blooms and then it's gone. Summer follows fast. Make hay while it lasts. Don't ever dwell upon the past. For one day you are here, and the next you are gone. Every horse has its year, and every dog its day. The dogs and the horses you'll have to outlive. They'll be with you when you say goodbye. Then the fall. The lines upon your face grow deeper almost every day. Days and weeks roll by, and winter nights draw nigh. Dogs and the horses you'll have to outlive. They'll be with you when you say
Pierre Judet de la Combe parle d'Héraclès, quand la naissance d'un héros est une blague.
Zeus, ton époux, a aimé cette femme.
Tant de femmes l'ont séduit qu'il est impossible qu'il se souvienne d'elle.
Oui, un si grand nombre de femmes, et toutes les métamorphoses, et toutes les ruses qu'il invente. Dans l'intention de séduire ces femmes, il apparaît en taureau, en pluie d'or, en cygne. Tenez, une fois, il a même essayé de m'enlever, s'étant déguisé en poisson.
A-t-il réussi ?
Sachez que non.
Il a renoncé.
Je l'ai pris à son jeu. Je me suis métamorphosée en requin.
Zeus, évidemment, avait remarqué la belle Alcmène. Mais il savait qu'elle était très amoureuse de son mari Amphitryon et qu'elle était infiniment vertueuse. Il n'avait donc qu'une seule solution pour la séduire. Non pas faire comme d'habitude et se transformer en taureau, en cygne ou en quoi que ce soit d'extraordinaire, mais prendre la forme et l'aspect du mari, Amphitryon. Le dieu profite de l'absence d'Amphitryon pour s'introduire la nuit dans Thèbes en se faisant passer pour le mari d'Alcmène. Il fait croire à Alcmène, tout attendrie, que la guerre menée pour venger ses frères a pris moins de temps que prévu. Elle est ravie. Ce n'est vraiment pas fair play du tout. Le pauvre Amphitryon était parti faire la guerre dans l'idée de pouvoir enfin coucher avec sa femme. Et Zeus le remplace dans cette fonction conjugale, légitime et tant attendue, précisément parce que l'autre, le vrai mari, fait tout pour la rendre possible. C'est très mesquin. L'union d'Alcmène et de Zeus, qui a pris l'apparence d'Amphitryon, a lieu. On dit que Zeus a demandé au dieu Soleil d'attendre 3 jours avant de se lever, pour que la nuit d'amour soit plus longue. Zeus triomphe, il a réussi. Mais a-t-il vraiment réussi ? Après tout, lui, le dieu suprême, il a dû, pour arriver à ses fins, prendre l'apparence d'un mortel. Il a dû s'abaisser. C'était la condition absolument nécessaire pour que l'union ait lieu. L'être auquel Alcmène s'est uni avec ferveur, avec amour et plaisir, cet Amphitryon, croit-elle, pas Zeus. Le dieu n'aura droit à aucun remerciement. Toute la gratitude ira au mari trompé, grâce à son remplaçant temporaire. Amphitryon a été dédoublé. Mais est-ce que du coup Zeus n'y a pas perdu ? Lui, le dieu souverain, l'absolument unique, l'immensément supérieur et infiniment grand, est devenu pour quelques heures le double, la copie d'un autre. Et en plus d'un mortel, il a été aimé pour cela, et pas pour lui-même. Le grand Zeus devient un personnage de comédie. Les auteurs de théâtre ne se sont pas gênés. Le poète latin Plaute a écrit une comédie Amphitryon, présentée au début du 2e siècle avant Jésus-Christ. Il a inventé le personnage de Sosie. C'est le nom d'un esclave d'Amphitryon. Jupiter, le Zeus des Grecs, vient s'unir à la femme d'Amphitryon en prenant l'apparence de son mari qui est absent. Jupiter a chargé son fils, le dieu Mercure, dieu de la fourberie, de la tromperie, en Grèce c'est Hermès, de faire le guet, de s'assurer que rien ne viendra gêner le bonheur de Jupiter dans les bras d'Alcmène. Pour accomplir son office, Mercure a pris l'apparence de Sosie, l'esclave et confident d'Amphitryon. Sur la scène, il y a donc 2 Sosies. L'esclave Sosie, qui est le vrai, qui a toujours été Sosie, et le faux Sosie, à savoir le dieu Mercure, qui a pris l'apparence de l'esclave. Le nom de l'esclave est entré dans la langue. Sosie a un double, un Sosie. Le travail de Mercure Sosie consiste principalement à empêcher le vrai Sosie de rentrer dans la maison et de surprendre Jupiter. Mercure, sous les traits de Sosie, fait alors tout pour persuader le vrai Sosie que lui, le vrai, l'esclave, n'est en fait pas du tout Sosie. Pour cela, il a comme argument une série de forts coups de poing. Le pauvre Sosie, le vrai, est complètement déboussolé et se demande qui peut bien être cet autre moi qui a pris sa place et qui le frappe avec tant de vigueur. Quant à Amphitryon, le vrai, l'humain, il est complètement perdu quand enfin, après ses exploits guerriers, il rentre chez lui et retrouve sa femme, Alcmène. Celle-ci le remercie avec émotion pour la nuit d'amour qu'ils viennent de passer ensemble alors qu'il n'était pas là. Il la croit folle, elle se fâche. Plus rien n'est sûr, tout tourne. On ne sait plus distinguer le vrai du faux. Le monde est devenu fou. Beaucoup de siècles plus tard, Molière reprendra au théâtre l'histoire d'Amphitryon, de Jupiter, d'Alcmène et de Sosie dans sa comédie Amphitryon en 1668. Plus encore que chez Plaute, les personnages sont emportés dans un tourbillon de doutes, de questions sur eux-mêmes, sur la réalité du monde où ils vivent, sur la certitude que l'on peut avoir d'être soi-même, sur ce que l'on est pour autrui. Le spécialiste, entre autres, de Molière, Georges Forestier, a montré comment dans cette pièce le théâtre prend à la rigolade les grands systèmes philosophiques du moment.
Georges Forestier.
Amphitryon, il s'inspire de Plaute, mais en fait, il le démonte et il le remonte à sa manière. Et ça, il va procéder de la même manière pour tout son théâtre. Donc Molière, c'est un, comme les Italiens de son temps, donc c'est un bricoleur de génie, mais un bricoleur qui fabrique quelque chose de neuf pour en faire une pièce originale, inouïe, stupéfiante, et qui va devenir, pour la postérité, classique. Mais à l'origine, elle ne l'est pas.
C'est l'époque où le philosophe René Descartes avait proclamé « Je pense, donc je suis ». Et dans cette pièce, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas quoi penser, ni même qui pense. Et on ne peut même pas se fier aux sensations, puisqu'il y a deux sosies, deux amphitryons absolument pareils. Jupiter est Dieu et souverain. Mais il n'est apparu à Alcmène que comme un double d'amphitryon. Après sa longue nuit d'allégresse avec Alcmène, Jupiter veut savoir si son amante est contente de lui en tant qu'époux, auquel elle ne se serait unie que par devoir, ou si elle a aimé passionnément l'amant que Jupiter voudrait d'abord être. La question le torture. Molière, dans sa pièce, montre le désarroi du dieu.
Je ne vois rien en vous dont mon feu ne s'augmente. Tout y marque à mes yeux un cœur bien enflammé. Et c'est, je vous l'avoue, une chose charmante de trouver tant d'amour dans un objet aimé. Mais si je l'ose dire, un scrupule me gêne. Au tendre sentiment que vous me faites voir, et pour les bien goûter, mon amour, cher Alcmène, voudrait n'y voir entrer rien de votre devoir. Qu'à votre seule ardeur, qu'à ma seule personne, je dusse les faveurs que je reçois de vous, et que la qualité que j'ai de votre époux ne fût point ce qui me les donne.
Le dieu sera déçu. Alcmène répond qu'elle ne fait aucune différence entre l'amant et l'époux. Elle aime passionnément l'amant parce que c'est son époux. Le nom d'époux permet à toutes les passions de s'exprimer.
C'est de ce nom pourtant que l'ardeur qui me brûle tient le droit de paraître au jour. Et je ne comprends rien à ce nouveau scrupule dont s'embarrasse votre amour.
Jupiter insiste lourdement.
En moi, belle et charmante Alcmène, vous voyez un mari, vous voyez un amant. Mais l'amant seul me touche, à parler franchement. Et je sens près de vous que le mari le gêne. Cet amant, de vos cœurs jaloux au dernier point, souhaite qu'à lui seul votre cœur s'abandonne. Et sa passion ne veut point de ce que le mari lui donne.
Mais Alcmène n'en démord pas.
Je ne sépare point ce qu'unissent les dieux. Et l'épouse et l'amant me sont fort précieux.
En s'unissant sans le savoir à Jupiter, Alcmène n'a pas aimé un amant exceptionnel, mais son mari. Pour arriver à ses fins, Jupiter s'est donné l'aspect d'amphitryon et il s'est piégé lui-même. Mais cette unité réussie et merveilleuse, selon Alcmène, du mari et de l'amant, sera de courte durée. Amphitryon, le mari, le vrai, finit par rentrer de sa guerre et évidemment, il ne comprend rien, Alcmène non plus. La confusion est totale quand les deux amphitryons se retrouvent face à face, le mari, le vrai, et Jupiter, sous la forme du mari. Le dieu, jaloux du mari auquel il s'est substitué, en vient à vouloir passer pour le vrai, et donc à se faire encore plus humain. Il en a le pouvoir, puisqu'il est dieu, et donc qu'il est plus malin. On est entraîné dans une ironie sans fond. Finalement, tout s'arrange, si on peut dire. Jupiter décide d'arrêter la comédie et d'apparaître tel qu'il est. En Jupiter, dieu du ciel, de la foudre et du tonnerre. Il se montre à tout le monde dans un nuage, assis sur un aigle, l'éclair à la main. Jupiter explique à Amphitryon qu'il n'y a rien de déshonorant à être remplacé pendant quelques heures par le roi des dieux. Cette tromperie montre toute la valeur d'Amphitryon, le mari humain, puisque le dieu a dû prendre son aspect pour s'unir à sa femme. C'est donc lui, Jupiter, qui doit être jaloux.
Regarde, Amphitryon, quel est ton imposteur ? Et sous tes propres traits, vois Jupiter paraître. À ses marques, tu peux aisément le connaître. Et c'est assez, je crois, pour remettre ton cœur dans l'état auquel il doit être et rétablir chez toi la paix et la douceur. Mon oncle incessamment, toute la terre adore, étouffe ici les bruits qui pouvaient éclater. Un partage avec Jupiter n'a rien du tout qui déshonore. Et sans doute il ne peut être que glorieux de se voir le rival du souverain des dieux. Je n'y vois pour ta flamme aucun lieu de murmure. Et c'est moi, dans cette aventure, qui, tout dieu que je suis, doit être le jaloux. Alcmène est tout à toi, quel que soin qu'on emploie, et se doit à tes feux être un objet bien doux. De voir que pour lui plaire, il n'est point d'autre voie que de paraître son époux.
Sosie tire la morale de l'histoire.
Le seigneur Jupiter sait dorer la pilule.
Tout ça, l'adultère, la violence des dieux, les tromperies, est finalement positif selon Jupiter. Puisque de l'union entre le dieu et Alcmène doit naître un fils prodigieux, dont la gloire remplira l'univers entier. Ce sera Hercule, ou chez les Grecs, Héraclès. Amphitryon le cocu sera à jamais associé à cette gloire.
Tu ne me demandes ni d'où je viens, ni comment j'en ai acquis la certitude. Mais je sais que cet enfant-là est mon fils.
Et ainsi donc, c'est lui.
Ce petit est une tâche, la faute qu'a commise ton dieu Zeus. Efface-la si tu m'aimes, Amphitryon. Supprime-le sans attendre pour laver ta honte et la mienne. Et nous vivrons ensuite auprès d'Iphiclès, notre héritier, le fils que j'ai eu de toi. Un amour sans aucune entrave.
Au revoir.
France Inter. Pierre Judet de
Lacombe.
Quand les dieux rôdaient sur la terre.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli, comedy, comedy don Juan. Ta-da-da-dum, ta-da-ta-dum, ta-da-ta-da-ta-da-da. Ta-da-ta-da-ta-zum. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. La 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 la. Ma cos'è? La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, 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 ah, comedy. Antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli. Comedy, comedy d'un jour. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy d'un jour. Za taradam, tadam, tadaritatatam. Taratatatatam. La comédie d'un jour. La comédie de ta vie. La comédie, la comédie.
la comédie, la comédie. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va.
Pierre Judet de la Combe parle de la naissance d'Héraclès. Comment naître quand on a deux pères ?
Plaute, Molière, il y en eut d'autres, sont des auteurs de comédie. Ils cherchent à faire rire. Mais ce rire, ils ne l'ajoutent pas au mythe. Ils le tirent du mythe lui-même. L'histoire d'Héraclès, de sa naissance, est pleine d'humour, de fantaisie, dès l'origine, si on peut dire. Le rire est central dans cette histoire, comme dans plusieurs mythes que nous avons déjà rencontrés. Il n'y a aucune moquerie, aucune critique des dieux dans ce rire, aucun blasphème, au contraire. Jupiter joue la comédie et il entraîne les humains dans son jeu. Certes, Jupiter, amant nocturne et cherchant des compliments, est parfois ridicule à force de se faire homme et de vouloir paraître à la fois humain et divin chez les mortels. Il fait rire. Comme font rire les pauvres mortels qui sont victimes de son jeu et qui n'y comprennent rien. Mais ce rire est réjouissant, libérateur pour tout le monde. Le rire, humain et aussi divin, montre que les dieux n'ont qu'un souci en tête, se mêler aux humains, être proche d'eux et les diriger. S'ils restaient confinés dans leur Olympe lointain, ce ne serait pas gai pour eux, et pas gai pour nous non plus. Les dieux, s'ils veulent exercer leur pouvoir divin, doivent descendre de leur nuée, mais ils en payent le prix. Ils deviennent comiques comme nous, et du coup, on les accepte davantage. Le rire est partagé par les humains et par les dieux. Il leur est commun et les réunit. Il les met à égalité. Les dieux ne perdent pas leur puissance, leur autorité, mais les humains ont au moins la liberté de les considérer avec humour. Zeus ou Jupiter, se transformant en Amphitryon, ne pouvait pas ne pas faire rire. Donc, Héraclès Hercule va naître. Ce que Molière ne dit pas, c'est que la même nuit, Alcmène s'est uni à Zeus Jupiter et aussi à Amphitryon qui s'en revenait de guerre. Alcmène va alors donner naissance à deux jumeaux, ou quasi-jumeaux, le grand et fort Héraclès, fils de Zeus, et un nommé Iphiclès, dont le nom veut dire « glorieux par sa force », un peu inférieur à son frère. Il est le fils d'Amphitryon. Décidément, tout se dédouble dans cette histoire. Et ce n'est pas fini. Il y aura encore du comique dans la naissance d'Héraclès, du comique amer cette fois, avec encore une histoire de substitution et de double. Cette substitution, ce double, seront à l'origine des longs malheurs d'Héraclès, des longs et pénibles travaux qu'il devra accomplir. Cette fois, c'est Zeus qui se fera avoir. La grossesse d'Alcmène arrive à terme. Zeus est tout content. Il sait que va naître un fils très glorieux, ce fils qui sera Héraclès. Le jour où Alcmène doit accoucher, Zeus, trop fier, ne peut pas s'empêcher de l'annoncer sur l'Olympe aux dieux qu'il a rassemblés autour de lui. « Un descendant de lui naîtra le jour même, dit-il, et il sera le roi de la ville d'Argos. » Mais cela n'aura pas lieu comme il l'a prévu. Zeus va se faire rouler par son épouse Héra, qui est évidemment furieuse de la naissance d'un tel bambin adultérin. Et Héra ne veut à aucun prix que ce fils de Zeus, et pas d'elle, règne plus tard sur la ville d'Argos, ville qui, en fait, lui est consacrée. C'est sa ville. Pour embrouiller Zeus, Héra va être aidée par la déesse Calamité, déesse des égarements, des erreurs de l'esprit. Cette déesse est terrible. Homère nous raconte la scène dans son Iliade.
Calamité est fille aînée de Zeus. Elle égare tous les êtres, maudite soit-elle. Ses pieds sont fins, il ne court même pas sur le sol. Elle avance sur les crânes des hommes et abîme les humains. L'un ou l'autre, elle l'entrave. Zeus aussi, elle l'égara un jour. On le dit pourtant meilleur que les hommes et les dieux. Mais quand même, Héra, qui est femelle, le trompa avec des idées de fraude le jour où Alcmène allait mettre au monde la force d'Héraclès dans Thèbes, la ville bien couronnée.
Zeus annonce cette naissance glorieuse, mais comme un idiot. Il ne dit pas où, ni de qui va naître cet enfant, de quelle mère. Dieu Tout-Puissant, il pérore. Il reste dans le vague, comme aiment faire les souverains. Il pense qu'il suffit d'évoquer les choses pour qu'elles se réalisent. Mais il aura tout faux.
Zeus disait des mots de fierté devant tous les dieux.
Entendez-moi, tous les dieux et toutes les déesses,
je vais dire ce que l'ardeur me commande. Ce jour, Eileithuia, la déesse accoucheuse, porta à la lumière l'homme qui régnera sur tous les habitants alentour. Il est de la race des hommes qui, par le sang, sont de moi.
La déesse Héra, que Zeus a trompée pour engendrer ce magnifique fils à venir, et Furax, elle va à son tour tromper Zeus. D'abord, elle fait comme si Zeus se vantait dans le vide, comme s'il n'était pas crédible. Héra demande à son divin mari de répéter ce qu'il a dit en prêtant un grand serment. Pour un dieu, c'est la contrainte maximale. Si un dieu prête un faux serment, il subit un très long châtiment, il tombe dans un long coma et il est banni de l'univers pendant une longue année. Zeus, trop sûr de son coup, ne voit rien venir. Confiant, il prête ce serment.
Héra, la souveraine, dit à Zeus avec des idées de fraude
« Tu seras menteur et ne mettras pas de réalité dans tes mots. » Alors, Olympien, jure-moi en un serment puissant qu'il va vraiment régner sur tous les habitants alentour, celui qui, ce jour même, tombera entre les genoux d'une femme, un de ces hommes qui, par le sang, sont de ta race. »
Elle dit cela. Zeus ne perçut pas la pensée de fraude. Il jura un grand serment et fut par là un grand égaré.
Et là, c'est la catastrophe pour Héraclès et pour Zeus. Héra quitte l'Olympe à toute vitesse. Elle va dans la ville d'Argos. Là, il y a une femme enceinte de 7 mois. Cette femme est l'épouse d'un dénommé Sthénélos, qui est le fils du fabuleux héros Persée, et qui donc descend de Zeus en ligne directe, puisque Persée est un fils de Zeus. Héra fait accoucher cette femme. L'enfant est un prématuré, mais il est vivant. Il s'appelle Eurysthée. Puis Héra court vers Thèbes. Elle demande à sa fille, la déesse Eileithuia, déesse préposée aux accouchements, de retarder la naissance du fils qui doit naître d'Alcmène, à savoir Héraclès. Eileithuia s'exécute. L'accouchement est arrêté. Pour naître, Héraclès doit attendre, comme on le dit en Belgique, Hercule Poirot. Le grand savant naturaliste romain Pline, dit l'ancien, nous dit comment on peut faire pour retarder un accouchement. C'est un truc de sage-femme.
C'est un sortilège de s'asseoir au chevet d'une femme enceinte, avec les doigts entrecroisés. On s'en aperçut, paraît-il, quand Alcmène accoucha d'Hercule. Le sortilège est aggravé si les mains entourent un genou ou les deux, et de même si l'on met le mollet d'une jambe sur le genou de l'autre.
Faut voir. Héra triomphe. Toute joyeuse, elle retourne dans l'Olympe et annonce à Zeus qu'il est bien né le fils qui doit régner sur la ville d'Argos. Ce n'est pas Héraclès, mais cet Eurysthée, né juste avant Héraclès.
Héra fit elle-même l'annonce à Zeus, fils de Cronos. Elle dit
« Zeus père qui brille par la foudre, je dépose une parole dans ta poitrine. Il existe, désormais, l'homme qui va régner sur les Argiens. Cet Eurysthée, l'enfant de Sthénélos, fils de Persée, ta lignée. Il n'est pas indécent qu'il règne sur Argos. »
Zeus est fou furieux. Il est coincé. Il a prêté serment. Il ne peut pas revenir en arrière et imposer son propre fils Héraclès comme roi d'Argos.
Héra dit cela. Un mal aigu frappa Zeus au fond de sa poitrine. Aussitôt, il saisit la déesse Calamité par sa tête ornée de tresses onctueuses. Il était plein de colère et jura en un serment puissant que jamais plus sur l'Olympe et au ciel couvert d'astres ne viendrait calamité qui égare tous les êtres. Cela dit, il la jeta loin du ciel couvert d'astres d'une main tournoyante. Vite, elle arriva au milieu des travaux des hommes. Sans fin, Zeus se lamentait d'elle chaque fois qu'il voyait son fils bien-aimé dans le travail indécent des épreuves d'Eurysthée.
Voilà pourquoi, à cause de Héra, le pauvre Héraclès aura pendant toute sa vie à subir les ordres de cet Eurysthée, ce prématuré né juste avant lui, qui est devenu roi d'Argos. 12 fois, Eurysthée enverra Héraclès accomplir des tâches impossibles. Ce seront les 12 travaux d'Hercule. 12 fois, Héraclès réussira, mais sa vie ne sera que labeur. Héra n'a pas pu empêcher cet enfant de naître, mais elle lui rendra la vie impossible.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
she speaks in my dreaming. I take a waste within my hand. And when I wake, she melts away into the sand. What meaning of this feeling? Why'd you return into the world of distant parts? We separate across the blades of glowing gold. I see you, the same eyes. Fire in my heart, 'cause this faith is all I have. This faith is all I have. Despite the brick walls, the ceiling, up here I'm freer than. In C4, we sit and watch the planet dying up above. We sit and smile without concern. Now walk through shop centers together. Our love dissolves this universe. My same eyes reflect the world that falls apart. There's a fire in our heart. Maybe this faith.
Pierre Judet de la Combe parle de l'enfance d'Héraclès, l'inconvénient d'avoir une marâtre.
Question surprise, la naissance d'Héraclès en réserve encore d'autres. Héra n'a pas dit son dernier mot. Héra veut d'abord en finir quand même avec ce môme indésirable. Elle envoie dans la chambre où dorment les deux petits-enfants d'Alcmène, Héraclès et son frère Iphiclès, le fils de Zeus et le fils d'Amphitryon, deux énormes serpents. Il ne devrait faire qu'une bouchée des deux petits. Cette fois, c'est le poète Pindare qui raconte l'histoire. Pindare est émerveillé par la force et par les actes du tout jeune Héraclès. Il veut en faire l'éloge.
Moi, je m'attache à Héraclès avec enthousiasme. Parmi les sommets de ses grands mérites, je vais raviver une antique histoire. Comment, à peine sorti des entrailles de sa mère, le fils de Zeus, échappant aux douleurs de la naissance, parvint à la lumière du jour avec son frère jumeau.
À peine né, Héraclès accomplit un immense exploit. Il étrangle dans ses mains d'enfant les deux serpents que Héra avait envoyés contre lui et contre son frère.
Je dirai comment la déesse au trône d'or, Héra, ne fut pas distraite quand il entra dans ses langes teintes de safran. La reine des dieux, le cœur en rage, tout de suite lança des serpents. Ils passent les portes qui étaient ouvertes. Ils arrivent dans le vaste fond de la chambre, impatients d'étreindre les enfants dans leur vive mâchoire. Mais lui, il dresse la tête et tente un premier combat. De ses deux mains qui ne laissaient pas d'issue, il serre les deux coups des serpents. Ils étouffent. Le temps, dans une expiration, enlève la vie à ces corps indescriptibles. Une peur insupportable frappe toutes les femmes venues aider Alcmène en couche. Mais elle se précipite hors du lit, sans vêtements, pour chasser l'arrogance des monstres.
Les Thébains accourent en masse avec leurs armes de bronze. Amphitryon a sorti son épée du fourreau. Il est estomaqué. La stupeur chez lui est mêlée de plaisir. Il constate la force inouïe de l'enfant qui est presque son fils, Héraclès. Un vieux devin, interprète exact des volontés de Zeus, le devin Tirésias, prend la parole. Il énumère les exploits qu'accomplira Héraclès.
Tirésias explique les fortunes à venir de l'enfant. Combien de gens il tuera sur terre, combien de bêtes de mer ignorantes de la justice. Et pour tout homme qui viendra plein d'un appétit pervers, il disait la mort horrible qu'Héraclès lui donnera. Et quand les dieux, dans la plaine de Phlégra, feront bataille contre les géants, sous la frappe de ses flèches, les géants souilleront de terre leurs flamboyantes chevelures.
Tirésias conclut en évoquant l'avenir radieux qui attend Héraclès après toutes ses épreuves, sa montée dans le ciel, l'immortalité et son mariage avec la déesse jeunesse, Hébé, qui est la fille de Zeus et de Héra. La réconciliation avec l'épouse de Zeus, d'abord si tenace dans sa haine d'Héraclès, aura finalement lieu dans l'Olympe.
Il disait tout cela, et Héraclès, dans la paix, pour tout le temps à venir, inaltérablement, trouvera un repos, compensation hors classe de grande fatigue, dans une maison bien heureuse. Il recevra une épouse, Hébé, jeunesse la florissante, lors d'un mariage célébré auprès de Zeus, fils de Cronos. Il approuvera un privilège solennellement accordé.
Tout est dit. Héraclès souffrira abondamment, mais il sera sauvé. Les dieux se réconcilieront autour de lui, qui deviendra immortel. Nous essaierons de suivre les étapes de cette transformation. Nous allons assister à une longue lutte entre Héraclès et la femme de Zeus, Héra, la Junon des Latins. Héra sera impitoyable. Héraclès aura fort à faire. Mais tout de suite, on voit à quel point la relation entre le fils aimé de Zeus, Héraclès, et sa belle-mère acariâtre, Héra, est complexe, ambiguë, et dès lors vraiment intéressante. Ça se voit d'abord dans son nom. À sa naissance, Héraclès ne s'appelait pas Héraclès, mais Alcides ou Alcaios. Ce nom rappelait son grand-père paternel, Alcaios, le père d'Amphitryon. C'est ce qu'on faisait d'habitude en Grèce. On donnait à un enfant le nom de son grand-père. Mais ce nom a été changé en Héraclès. On dit parfois que c'était après son exploit contre les deux serpents envoyés par Héra. Le nom Héraclès pouvait s'entendre comme « glorieux » par Héra. C'est en effet son ennemi Héra qui lui a permis de montrer sa force prodigieuse. Mais le nom Héraclès prend en fait dans l'oreille des Grecs aussi un autre sens. Héraclès peut dire « la gloire d'Héra ». C'est paradoxal, puisque Héra l'a tellement torturé et persécuté, mais précisément l'acharnement permanent de Héra contre Héraclès non seulement n'a cessé d'accroître la gloire d'Héraclès, mais a renforcé aussi celle de Héra. C'est bien elle, avec constance, qui a été à l'origine de tant de grandeurs héroïques. Héraclès a permis à Héra de déployer toute sa puissance. Ces deux-là, Héra, Héraclès, existent l'un par l'autre, ils sont solidaires. Et à la fin, c'est bien une fille de Héra et de Zeus qui épousera Héraclès, devenu dieu, la belle Hébé, la jeunesse éternellement jeune. Pour finir l'épisode d'aujourd'hui, une autre histoire d'Héraclès nourrisson. Elle prend une dimension cosmique. C'est l'origine de la Voie lactée, notre galaxie. Encore une fois, la relation entre Héraclès et sa marâtre Héra apparaîtra dans toute son ambiguïté. On a deux versions bien différentes de cette histoire, mais elles aboutissent au même résultat. Le ciel nocturne est traversé de part en part par ce long chemin d'étoiles qu'est la Voie lactée. C'est une histoire d'allaitement par Héra. Parfois, on dit que Zeus, on ne sait pas quand, avait pris un décret. Aucun de ses fils ne pourrait accéder au statut divin s'il n'avait été le sein de la déesse Héra. Or, Zeus voulait que son fils Héraclès devienne un jour un dieu. Mais il savait qu'il ne pourrait pas facilement persuader son épouse d'allaiter l'enfant qu'il avait fait à une autre. Il profita de son sommeil. Et lui-même, ou son fils Hermès, dont on connaît les fourberies, déposa l'enfant sur le sein de Héra endormi. L'enfant téta. La déesse se réveilla et entra dans une immense colère. Elle balança le bébé et une grande giclée de lait sortit de son sein. Ce lait perdu alla jusqu'à la voûte céleste et devint la Voie lactée. On dit encore qu'Héraclès, le glouton, téta tant qu'il ne put tout avaler et recracha le lait vers le ciel. Il existe une toute autre légende. Alcmène, la mère d'Héraclès, sait que la déesse Héra est jalouse, qu'elle déteste son fils et qu'elle fera tout pour lui faire du mal. Elle a peur. elle décide alors d'abandonner le nouveau-né dans un lieu qui s'appelle depuis le champ d'Héraclès. Athéna et Héra passent par là. Athéna est éblouie par l'aspect vigoureux, puissant du petit. Elle convainc Héra de lui donner le sein. Héraclès tète, mais il le fait si violemment que Héra se détourne brusquement. Le lait de la déesse s'échappe et part dans les étoiles. Athéna rapporte le petit à sa mère, Alcmène. Voilà comment est née notre galaxie. Le mot galaxie vient en effet directement du mot grec pour le lait, gala. Et si on décline le mot galactos, Héra, pendant quelques instants à peine, a été la mère de substitution d'Héraclès. En naissant, Héraclès a été ballotté entre deux pères différents, un divin et un mortel. Il a tout de suite été persécuté par une déesse jalouse. Puis toute sa vie durant, Héraclès a été soumis à un cousin, Eurysthée, dont tout le pouvoir tenait au simple fait qu'on l'avait fait naître par méchanceté quelques heures avant lui, un cousin sans gloire et sans valeur. Héraclès semblait devoir être abattu, écrasé, humilié à tous les moments de sa vie. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. Ses malheurs, l'un après l'autre, ont confirmé son extraordinaire énergie, sa force de résistance. Il n'a jamais été libre. Il a connu les douleurs de la condition humaine jusqu'à l'extrême. Mais cela l'a rendu encore plus puissant. Il était prêt à devenir un dieu immortel. Nous suivrons ses aventures.
Oh toi, toi qui sais lire dans les pierres, dans le cours tortueux des eaux, dans les sanglants viscères des animaux, toi qui connais tous les secrets du ciel, toi qui interroges les astres et qui par les nuits sans lune guide nos esprits égarés, dis-moi, si mes épreuves sont enfin terminées, je t'en conjure. Dis-moi si maintenant Zeus et tous les dieux sont apaisés.
Hercule, je vois l'océan déchaîné et tumultueux. Je vois sur l'océan un radeau entraîné dans le sillage profond d'un navire. Ce navire représente la colère divine que tu as provoquée entrant les serpents sacrés de la déesse Héra. Toute ta vie sera à l'image de cette coque de noix, ballottée au gré de la tempête divine.
Quel nouveau malheur ! Quel nouveau tourment devrais-je affronter encore ?
Marguerite Yourcenar.
Hercule a toujours été senti, même d'ailleurs au début du christianisme par les pères de l'Église, comme un dieu presque chrétien, parce qu'à cause de l'effort, de la purification par la douleur et par le travail, il a toujours été senti très proche de la pensée chrétienne. Il y a quelque chose de ça.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechen. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Benjamin Vignal. Et le mixage par Jean-Louis Delon. La semaine prochaine, nous suivrons Héraclès dans ses premiers exploits. Bonne journée sur France Inter.